Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Bouring, économiste et chercheuse dans un domaine qui, vous le savez, m'intéresse particulièrement, à savoir les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment dans le milieu professionnel. Anne dirige la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po, et j'avais envie, pour une fois, de réellement approfondir ce sujet avec elle. Durant notre conversation, j'ai pu comprendre, par exemple, que ma propre aversion pour les mathématiques était peut-être due non pas à un manque de compétences, mais à l'intériorisation de stéréotypes culturels transmis au fil du temps. Quels impacts ces stéréotypes ont-ils sur notre libre arbitre? Comment leur intériorisation mène-t-elle à leur réalisation? Comment la société peut-elle garantir une égalité de droits entre les hommes et les femmes, mais aussi une égalité concrète, aussi bien au niveau professionnel que personnel? Même si nous n'avons pas encore toutes les réponses, c'est le fait d'y réfléchir, d'en débattre, et même seulement d'en parler, qui permettra de faire bouger les choses. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Floriana qui a laissé le commentaire suivant. J'aime vraiment beaucoup. Et oui, j'ai sélectionné celui-ci pour vous dire que prendre le temps d'écrire ne serait-ce que cette phrase, ça fait vraiment hyper plaisir. Alors que ce soit une ligne ou 10, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un avis sur Apple Podcasts. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur InPower, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Donc je suis Anne Bouring, je suis chercheuse en économie, je suis assistante professeure à l'université Erasmus de Rotterdam et je dirige la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po.
Ok, bah c'est super, c'est en effet pour ça que je vous ai contacté et je me suis demandé avant d'entrer dans le détail de votre parcours, comme vous travaillez donc dans le domaine de l'inégalité des genres, quand est-ce que vous, si vous en souvenez, avez pris conscience de la réalité de ces inégalités ?
Alors j'ai fait maintenant mes travaux de recherche en effet portent sur ces questions d'inégalité sur le marché du travail et dans les choix d'études que font les hommes et les femmes et qui les amènent à avoir des différences sur le marché du travail. Et mon sujet de thèse n'avait rien à voir avec ça, mais je me souviens très clairement que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, avant, je ne prenais pas vraiment conscience des inégalités sur le marché du travail. Donc, pendant mes études, en fait, je ne les avais pas perçues. Mais dès mon premier poste, je commence à me rendre compte qu'en fait, il y a des inégalités salariales. Je vois certains hommes qui ont des trajectoires qui sont beaucoup plus rapides que moi ou certaines de mes collègues exactement, avec qui j'avais pu étudier en licence, master. Et donc, je me suis dit... C'est bizarre, il se passe des choses, c'est pas normal par rapport au niveau académique en fait que tout le monde avait. Il y a tout de suite d'après l'obtention du diplôme, en fait, on voit que les trajectoires sont vraiment très différentes. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment étudier parce que je me suis rendu compte aussi, par exemple, que j'avais demandé un salaire qui était bien inférieur à ce que quelqu'un aussi qualifié que moi, qui se trouve était un homme et qui prenait le même poste que moi, avait demandé et avait obtenu, et j'étais assez perplexe quand une fois que je me suis rendu compte de tout ça. Donc voilà, j'ai voulu savoir un peu ce qui relevait de mes choix, des stéréotypes de genre, et puis plus largement en fait de la façon dont le système économique fonctionne et qui peut générer ces inégalités, et assez souvent en fait de façon tout à fait... inconsciente et non voulue. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens sont tout à fait en faveur de l'égalité femmes-hommes. Mais après, les choix font créer des différences.
Vous pensez sincèrement que tout le monde est en faveur de l'égalité femmes-hommes? Parce que quand j'en discute parfois avec des hommes, ce qui me dérange un peu dans leur discours, c'est qu'ils vont être pour, il y aura toujours un mais. J'ai l'impression que comme il y a un status quo qui fait qu'ils sont quand même en position dominante, dans l'absolu, ça peut les déranger de voir des femmes aussi au poste que des hommes, et ils vont tenir des discours parfois de type « Non mais oui, bien sûr, moi je suis féministe, par contre, une femme à la tête de l'entreprise, je sais pas quoi ».
Alors, je pense sincèrement que la majorité des gens, hommes ou femmes, sont en faveur de l'égalité, en tout cas l'égalité en droit déjà, ce qui est très important. Après, en ce qui concerne l'égal accès à des postes de responsabilité, là, ça devient plus compliqué parce que, chacun pense en termes de trajectoire individuelle. Et même si sur le principe, en effet, les individus vont être pour l'égalité de façon globale, lorsqu'il s'agit de leur propre promotion, de leur propre chance d'accès à des positions de pouvoir économique ou politique, par exemple, là, ça devient plus compliqué. Et généralement, on a plutôt tendance à vouloir éviter la concurrence de manière à ce que soi-même qui obtienne ce poste. Et c'est vrai que les stéréotypes de compétences tels qu'ils existent actuellement ont plutôt tendance à favoriser les hommes. Et donc, justement, je comprends, et ça s'entend aussi, que certains hommes se disent « Oui, mais je trouverais ça injuste que, juste parce que c'est une femme, elle ne puisse pas avoir accès... Enfin, qu'elle ait accès à un poste que, moi, j'aimerais obtenir en tant qu'homme et en tant qu'homme que je me perçois comme étant compétent. »
Ouais, mais alors, parce qu'elle pourrait accéder à ce poste, pas parce qu'elle est une femme, juste parce qu'elle est compétente, mais souvent parce qu'elle est une femme, ça va déranger pour... tous les sujets que vous étudiez, les stéréotypes, enfin, j'ai eu pas mal de choses à ce sujet, mais le soupçon de maternité, c'est vrai que je pense que c'est hyper inconscient. Donc déjà, ça m'intéresse de revenir au moment où vous avez choisi, du coup, d'étudier ce domaine. Et alors, pourquoi ce domaine en particulier, qui est assez spécifique, mais bon, ça, c'est un peu la particularité des thèses, c'est que c'est un sujet assez spécifique. Pourquoi vraiment, du coup, sur les stéréotypes de genre et en quoi ça influe les choix d'études supérieures et les différences sur l'entrée au marché du travail?
Alors, en fait, je vais répondre à cette question et aussi un peu à votre commentaire juste avant. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a actuellement beaucoup de femmes compétentes qui n'accèdent pas à des positions qui correspondent à leur niveau de compétence. Et c'est en grande partie lié aux stéréotypes de genre, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on est habitué à voir un profil de personne dans un certain poste, toute personne qui correspond à ce profil-là est automatiquement vue comme étant probablement plus compétente que quelqu'un dont l'image diffère. Et donc justement sur les choix d'études, on voit aussi que les hommes et les femmes se disent que dans certaines professions, ils ont plus ou moins de chances de réussir. Parce qu'ils correspondent, enfin leur identité, leur image correspond au stéréotype de la personne qui réussit dans un certain domaine. Si on pense au temps que l'on a dans une journée et au fait qu'on est obligé de faire des choix, donc les économistes s'intéressent énormément au coût d'opportunité. Donc le coût d'opportunité, c'est lorsque l'on fait un choix, quelles sont les autres activités que l'on est obligé d'abandonner parce qu'on n'a tout simplement pas le temps de les faire. Du coup, justement, on se dit que finalement, si j'ai envie d'investir beaucoup d'efforts et de temps dans la réussite dans un certain domaine de ma vie, ça implique des coûts par ailleurs. Et si je me dis que je ne vais pas y arriver, il y a quand même moins de chances que je choisisse une trajectoire de carrière dans un domaine où j'identifie que je pourrais être plus facilement discriminée, par exemple, ou que ma compétence ne sera pas reconnue, ou peut-être que j'aurai moins d'amis, ou peut-être que je perçois cet environnement comme étant pas toujours aussi accueillant que l'environnement professionnel dans lequel j'aimerais évoluer. Donc il y a vraiment cette partie-là sur les choix d'études. Donc ça, c'est un peu le premier décrochage en termes de carrière professionnelle qu'on observe. Et le deuxième décrochage, c'est celui que vous évoquiez sur la maternité, où là, très clairement, il y a un creusement. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, un creusement des inégalités dès l'entrée sur le marché du travail. Elles augmentent un peu de façon perceptible, mais vaguement. Et au moment de la maternité, c'est là où on voit vraiment les différences s'opérer.
C'est un peu, j'ai l'impression, une espèce de prophétie autoréalisatrice, parce que comme les hommes censurent des femmes parce qu'ils pensent qu'elles vont avoir un enfant, ils vont aussi les faire accéder à des postes moins importants. Ces femmes-là intériorisent aussi limite ça, et donc j'ai l'impression qu'elles se résignent limite à la maternité. Enfin, une fois qu'elles sont devenues mamans, elles, Ouais, on leur fait comprendre qu'en gros, elles ne pourront pas retrouver carrière. En tout cas, moi, c'est un discours que ma mère a tenu, où elle s'est dit, bon, bah, dans tous les cas, voilà, maintenant j'ai 3 enfants, je ne retrouverai jamais la carrière et j'ai un peu sacrifié ma carrière. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est un cercle vicieux, quoi. Parce que si tout le monde pense ça et que du coup les femmes se mettent aussi ça dans la tête, il n'y a pas forcément de changement. Alors que dans l'absolu, je pense que c'est pas parce qu'on s'arrête 6 mois, 1 an, qu'on ne peut pas reprendre là où on en était et continuer l'évolution de notre carrière.
Alors les prophéties autoréalisatrices sont des mécanismes extrêmement intéressants et qu'on étudie beaucoup en sciences économiques, et notamment sur les questions de discrimination. Alors ce que l'on constate, c'est justement lorsque l'on anticipe que on va avoir un obstacle dans une certaine activité, bah, du coup on choisit plutôt de faire autre chose, et comme on a fait autre chose, bah, du coup il y a moins de gens qui font l'activité initiale qui nous ressemble, etc. Donc ce sont vraiment des mécanismes qui font que justement on va avoir moins de femmes, notamment dans des postes de leadership économique. Et c'est une vraie croyance, je pense, de la part de beaucoup de femmes, et c'est aussi une croyance de la part des entreprises. Alors vous disiez justement de la part de certains hommes, mais il y a aussi en fait beaucoup de femmes, c'est surtout le système économique et la façon dont l'entreprise en tant qu'institution perçoit les trajectoires individuelles et des coûts associés au personnel qu'elles emploient. Alors par exemple, dans l'état actuel des choses, où les femmes prennent de plus grands congés maternité, parentaux, que les hommes, en fait, lorsqu'une entreprise embauche une femme, l'entreprise se dit que cette femme, elle va être peut-être plus coûteuse pour moi qu'un homme équivalent, parce qu'il va falloir que je la remplace, enfin, il y a des chances qu'il faille que je la remplace, que justement, enfin voilà, il y aura des coûts d'adaptation un peu en termes de ressources humaines pour l'entreprise. Mmh. Alors ce qu'on constate, c'est que les grandes entreprises ont plutôt assez bien intégré ce coût, et encore, mais pour des structures, des PME, enfin des petites et moyennes entreprises, ou des structures de plus petite taille, lorsqu'une personne part pour un certain laps de temps, s'absente en raison de la maternité, c'est un vrai coût de remplacement, trouver quelqu'un. Donc c'est quand même une décision rationnelle, mais c'est une décision rationnelle qui est aussi liée aux politiques publiques, et d'où l'importance d'avoir un congé paternité qui ferait que, justement, pour les entreprises, elles ne percevraient pas de différence de coût entre le fait d'embaucher un homme et une femme, parce qu'elles se diraient que, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, cette personne-là va prendre du temps pour sa vie familiale ou sa vie personnelle, de façon large, à un moment donné de sa carrière, et que donc je peux embaucher aussi bien un homme et une femme. Donc ça, c'est là où on voit un peu les pouvoirs publics ont un rôle extrêmement important dans la régulation des systèmes économiques et donc dans l'égalité de fait entre les hommes et les femmes sur les questions économiques. Ouais.
Et alors, question un peu naïve, même si je me doute de la réponse, c'est pourquoi vous pensez que ça n'a pas encore été fait ? Parce que j'imagine qu'ils savent et que peut-être vous êtes en discussion avec eux. Et c'est pas une décision que je trouve politiquement non plus trop lourde ou qu'on pourrait décrier.
Alors, ce sont des décisions qui sont coûteuses. Donc, il faut un certain temps pour que les pouvoirs publics acceptent de considérer que c'est un coût, en fait, qui est bénéfique à la société. Mmh. Et bon, il y a des évolutions. Hein. On a le congé paternité lui-même n'est pas si vieux que ça. Mais en effet, on pourrait tout à fait l'adapter, le rendre obligatoire, le prolonger, créer des incitations pour que le congé parental soit mieux partagé. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus une demande de la part des hommes de vouloir s'impliquer davantage dans la vie familiale qu'auparavant. Et cette demande-là vient aussi du fait que maintenant, justement, ça devient accepté quand même de prendre un congé paternité, même court, pour les hommes. Enfin, voilà. Donc, il y a, en fait, les évolutions se font quand même assez lentement. Ouais. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment des normes culturelles qui ont été établies, notamment dans des sociétés qui étaient plutôt basées sur l'agriculture, ont créé aussi une séparation ou un stéréotype de ce que c'est vraiment les hommes qui s'occupent du travail économique et les femmes de la sphère domestique. Mais ça, ça a été ancré à un moment donné dans l'histoire. Mais ça persiste quand bien même le fonctionnement de l'économie actuelle permettrait, en tout cas dans un pays comme la France, tout à fait d'adapter, enfin de ce que les hommes et les femmes puissent se répartir de façon égalitaire.
Le congé,
Le congé, mais et même le poids qu'ils mettent sur les différents aspects de leur vie, donc que ce soit justement la vie personnelle, la vie professionnelle.
Bah c'est vrai que là-dessus, en fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a tellement de causes qui expliquent aujourd'hui les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, parce que, de facto, les inégalités qui existent aussi dans la sphère familiale jouent énormément. Et c'est vrai que je me demande quoi, à quel point le poids de l'histoire joue, à quel point le poids des rôles sociaux joue, parce que ben, d'un côté, moi je suis née à la fin du XXe siècle, mais en fait, tous les siècles précédents, et le rôle qu'ont tenu les femmes a joué dans mon imaginaire. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut. En fait, ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se joue limite à la sphère individuelle, en fait. C'est une question d'éducation.
Alors, c'est très clairement une question d'éducation. C'est une question aussi de rôle modèle. Donc, comme vous le disiez, c'est quelque chose d'ailleurs que l'on observe, qui est que. Je vais donner un exemple. Si on prend un étudiant ou une étudiante, enfin un élève au lycée, potentiellement cet élève pourrait faire n'importe quel métier. On a un panel de métiers qui est extrêmement vaste auquel on peut prétendre lorsque l'on fait des études en France, et la majorité des élèves maintenant font des études supérieures ou en tout cas une professionnalisation. La question est, c'est du coup, comment est-ce qu'on peut se dire que, tiens, je pourrais être contrôleuse aérienne, je pourrais être dentiste, je pourrais être vraiment artiste, pilote, oui, complètement. Enfin voilà, il y a tout, justement, PDG, il y a tout ce spectre de carrière auquel on pourrait potentiellement prétendre. Donc ce qui m'intéresse en tant que chercheuse, c'est, mais du coup, quand on est en train de faire son choix, comment est-ce qu'on a éliminé tous les autres ? Et qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé plutôt à devenir cette profession plutôt que me tourner vers cette autre ? Et ça, c'est vraiment lié à ce à quoi on est exposé. Et les rôles modèles jouent un rôle extrêmement important. Donc le fait d'avoir été exposé à des femmes qui ont réussi en sciences, par exemple, peut amener des élèves de terminale, et ça, il y a une étude de recherche qui est menée par des chercheurs à la Paris School of Economics qui montre ça, enfin l'école d'économie de Paris, qui montre ça, qui est que lorsque des femmes qui ont réussi en sciences vont parler à des élèves de terminale et qu'elles leur expliquent à quel point leur carrière en sciences a été épanouissante pour elles, et puis comment elles se sont débrouillées dans leur carrière pour concilier aussi leur vie personnelle et professionnelle, mais qui parlent vraiment avec amour de leur carrière scientifique, bah ça amène des élèves de terminale scientifique à choisir davantage ces filières. Donc c'est ce à quoi on est exposé, c'est vraiment cette information-là est extrêmement utile pour que des étudiantes puissent se projeter et donc faire des choix qui seraient moins stéréotypés. Et les stéréotypes viennent largement de l'histoire, de la culture, de ces prophéties autoréalisatrices dont on a parlé.
Et vous, en tant que chercheuse et avec vos collègues, comment est-ce que vous réfléchissez à transformer ces stéréotypes ? Parce que c'est un tel travail que j'imagine qu'on doit être un peu démunis aussi face à... On ne peut pas changer l'histoire.
Alors, évidemment, on ne peut pas changer l'histoire. Il y a la question même de à quel point, enfin, nous, en tant que chercheuses ou chercheurs, l'idée n'est pas forcément d'intervenir dans les choix individuels, mais vraiment de décrire comment ils sont effectués. Donc, après, mon travail de recherche est vraiment un travail de recherche. Donc, j'observe, je décris, des expériences permettent de montrer des mécanismes. Après, l'objectif en tant que tel n'est pas forcément militant en soi. Mais évidemment, ce travail de recherche est utile si on veut favoriser l'égalité professionnelle en tant que telle. Du coup, en tant qu'économiste, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment... je fais de la microéconomie, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut aider des individus à faire des meilleurs choix pour eux-mêmes, tels que eux le décident. Donc vraiment, accroître cette liberté dans le choix. Et je pense que les stéréotypes limitent la liberté individuelle. Et même si ces stéréotypes viennent de l'histoire, le fait de comprendre comment ils fonctionnent, le fait de justement avoir la possibilité d'avoir accès à un choix plus large, parce qu'on a compris comment les stéréotypes ont influencé ou peuvent influencer nos décisions, ça c'est un travail qui est extrêmement riche et intéressant. L'autre volet, c'est évidemment l'impact que les pouvoirs publics ont sur le système économique et comment les décisions individuelles sont faites. Mmh. Donc les décisions individuelles telles qu'elles sont vues par un chercheur microéconomiste, c'est l'ensemble des préférences individuelles. Ces préférences elles-mêmes varient en fonction du type d'information que l'on a, ce à quoi on a été exposé, etc. Et puis aussi les contraintes auxquelles nous sommes soumis. Et dans ces contraintes, il y a les stéréotypes de genre qui nous sont imposés en tant qu'individu qui appartient à un groupe. Et donc les stéréotypes, c'est comment est-ce que d'autres individus perçoivent les membres du groupe auquel ils nous identifient. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait justement pour modifier ces stéréotypes de manière à libérer les choix individuels? Ça c'est un travail qui est assez fascinant.
Ouais, c'est vraiment fascinant parce que c'est très intériorisé. Et, bon, en gros, il y a la piste des rôles modèles, il y a la piste des politiques publiques qui peuvent permettre un changement des choses et qui amènera un changement de mentalité par la suite. Et c'est ce qui s'est passé pour, au final, pas mal de progrès dans l'histoire. Et puis, il y a toute la sphère individuelle et la sphère familiale. Parce que, moi, j'ai été même victime de ces stéréotypes. Les filles, elles sont plus littéraires. Il y a plus ces métiers-là auxquels on serait destiné. Et c'est vrai que c'est assez... En plus, je trouve déjà que c'est compliqué de choisir ce qu'on veut faire dans la vie parce que il y a un peu cette question $1 million quoi qui nous omnibule quand on est adolescent et en fait limite ça facilite le choix de se dire que il y en a qui sont faits pour nous parce que du coup le choix est moins large et c'est rassurant quoi. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être une question d'accompagnement pour essayer de montrer aux femmes comme aux hommes qu'en fait il y a pas que ces métiers-là qui leur sont destinés du fait de leur genre, mais un panel beaucoup plus large.
Alors ce que vous dites est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est un peu la contrepartie justement du fait d'augmenter le choix qui est mis à disposition, par exemple sur les carrières professionnelles, parce que plus on a de choix, plus c'est difficile en fait de faire des choix. Et c'est quelque chose que j'observe sur un peu les différences entre les hommes et les femmes, ou en tant que groupes sociaux, où finalement pour les femmes, maintenant je pense qu'il est beaucoup plus accepté qu'elles fassent un panel très large d'activités professionnelles. Donc c'est devenu socialement accepté. Enfin, en tout cas plus qu'avant, qu'elles s'investissent dans des activités qui sont traditionnellement plutôt vues comme étant masculines. En revanche, l'inverse pour les hommes n'est pas vrai. Le fait que des hommes fassent des carrières plutôt féminines reste encore très mal perçu par la société. Et quelque part, tant qu'on n'a pas libéré en fait les choix des deux côtés, ça va être d'autant plus difficile justement de contrer le poids que les stéréotypes continuent à avoir sur les choix individuels. Et donc, en l'occurrence, pour les femmes.
Ouais, c'est sûr. Il y a des métiers auxquels, des secteurs auxquels on pense, qui sont extrêmement féminisés. Et là aussi, ça s'entretient, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, je pense que l'école, au final, joue aussi un grand rôle. Et quelque chose qu'on a à Sciences Po, en plus, dans un cours que vous devez connaître, parce qu'on parlera après de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes que vous dirigez. Mais j'ai moi-même fait le cours d'initiation à l'entrepreneuriat à Sciences Po. Et il y a des intervenants et des intervenantes qui viennent chaque semaine. En plus, Jacques-Henri Rault, le professeur, je trouve... je pense consciemment, fait venir autant femmes que d'hommes, et c'est super.
Absolument, ouais.
Mais du coup, il y a vraiment ce côté où, on voit, on observe des carrières, et on n'a jamais eu ça à l'école. Enfin, en tout cas, dans mon école, j'ai jamais eu de professionnels qui venaient parler de leur parcours, ou genre une fois par an. Mais du coup, ça donne pas du tout une idée du champ des possibles. Et là, en plus, même si c'est pas le sujet de ce podcast, mais ça joue forcément, aussi dans le côté milieu social, en fait, non seulement on a le poids des stéréotypes de genre, mais on a aussi le poids de notre condition sociale. Il y a beaucoup de métiers auxquels on se ferme des portes, alors que si des personnes venaient nous voir et nous disaient, moi, ce que j'ai fait, ma carrière, alors que je viens peut-être du même milieu que vous, je pense que ça permet de faire sauter pas mal de verrous mentaux, quoi.
Oui, alors les mécanismes des stéréotypes s'appliquent à n'importe quel groupe, en fait. C'est donc que ce soit justement sur l'origine sociale, l'origine ethnique, ou le statut de santé, enfin voilà, sur l'orientation sexuelle, sur le genre, enfin voilà, les dynamiques sont à peu près les mêmes. Donc ce que vous dites est très vrai. Et c'est en fait très important de pouvoir voir, de pouvoir se projeter dans quelqu'un. Ouais. En se disant, bah tiens, moi je pourrais être comme elle, ça me plaît, moi, ce qu'elle est en train de dire, et j'y avais pas pensé avant, et finalement là c'est assez intéressant. Et c'est vrai que ça, on manque de ça au lycée en particulier. L'autre élément dont on manque, je pense, enfin en tout cas pas qui manque, mais je pense à une étude d'une chercheuse qui est à Harvard, qui s'appelle Michaela Carlana, et qui montre que les stéréotypes aussi que les enseignants peuvent avoir au lycée, au collège, jouent aussi sur la confiance en soi. Donc voilà, en France on a ce stéréotype de ce que les femmes sont moins bonnes en maths et les sciences, c'est vraiment plutôt un domaine masculin. Et si on a des enseignants qui poussent ou qui croient très fortement dans ce stéréotype, même qui peuvent faire des blagues, ça joue. Et ça joue, ça a un impact qui est majeur, et elle le montre dans ses travaux de recherche. Donc il y a tout un tas d'éléments justement extérieurs, sociétaux, qui influencent évidemment nos choix individuels, donc soit quand nous sommes exposés en termes de rôle modèle, les enseignants, la pression parentale. Il y a des travaux de sociologues qui auront tendance à montrer, par exemple, que justement, si leur fils, je caricature, hein, mais si leur fils, lui, veut vraiment pas faire un métier d'ingénieur, ils vont peut-être pousser un peu plus fort, alors que si c'est leur fille, si elle veut pas faire un métier d'ingénieur, ils vont dire, bah, c'est pas, voilà, fais ce que tu veux, c'est très bien. Donc justement, voilà, c'est tous ces différents facteurs qui influencent les choix. C'est important d'en avoir conscience.
Là, vous parlez donc de ces études. Personnellement, je trouve que c'est toujours... je trouve ça assez fascinant. Et je déplore énormément le manque d'accessibilité à ces études, parce que je pense que, comme on dit, il y a aussi une grande question juste d'avoir conscience de ces stéréotypes. Bah, en fait, c'est la première étape pour pouvoir les changer. Je sais pas si c'est... forcément, vous devez en avoir conscience. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à démocratiser un peu les recherches et les études qui sont menées? En plus, pour vous, c'est un travail colossal. Donc, je veux dire, ce serait bénéfique pour tout le monde d'en avoir connaissance. Et alors, il y a la Harvard Business Review qui est un peu démocratisée, mais... Encore, je dis ça, je pense que ça reste un milieu assez éduqué, et voilà. Mais ouais, je sais pas s'il y aurait un moyen, peut-être, de que ce soit relayé aux 20h, je sais pas, une espèce d'à la fin, voilà, les études qui ont été menées, pour un peu faire un travail de lanceur d'alerte, ou en tout cas de sensibiliser le plus grand nombre à différents sujets, quoi, dont on pourrait tous bénéficier.
Alors, c'est l'un des objectifs de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes. C'est vraiment d'informer le grand public, les entreprises, les étudiants, les enseignants ces questions des inégalités, comment les stéréotypes fonctionnent, etc., comment les régler, mais surtout aussi de présenter en fait ce que des travaux de recherche ont pu montrer, dans les sciences sociales de façon large. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée il y a quelques années, quand je commençais un petit peu à travailler sur ces sujets. C'était en parlant avec des personnes du monde de l'entreprise qui souvent me citaient en fait des travaux menés par des groupes de consulting, qui sont des travaux qui sont très intéressants, mais il y a par ailleurs tout un tas de travaux de recherche qui ont testé des interventions possibles, enfin qui développent des mécanismes et qui les étudient de façon très approfondie, mais qui sont pas connus du grand public. Et c'est quelque chose que je trouvais qui était fortement dommage. Et c'est une vraie question de comment faire pour diffuser ces travaux. Alors il y a par exemple le site The Conversation qui a cet objectif-là. Mais c'est pas toujours évident d'amener les gens vers cette
information. Bah alors j'irai voir par exemple leurs réseaux sociaux, et je me ferai un plaisir de relayer le compte. Et au final même, c'est vrai que je me rends compte que les rôles modèles qui sont pas forcément visibles, le podcast permet d'une certaine manière de rendre accessible en tout cas différents parcours. Et je sais que, en tout cas, des auditeurs et des auditrices qui m'écrivent en me disant que ils se sont rendus compte de quelque chose à l'écoute d'un podcast. Et donc je pense que les réseaux sociaux, mine de rien, de manière générale, permettent cet accès à l'information. Et parfois, voilà, et en fait, on tombe dessus et on n'a pas forcément nous à faire la démarche d'aller la chercher, ce qui est parfois un peu la barrière pour accéder à l'information. Mais pour revenir du coup pour, sur la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'elle a été fondée, quel était un peu le but et quel était le constat de départ? Parce que voilà, on parlait de ces secteurs très masculins dans la société aujourd'hui, et c'est vrai que l'entrepreneuriat en est un. Et voilà, le monde ouais, des startups notamment.
Alors, l'idée a débuté il y a quelques années déjà, mais la chaire en elle-même a été créée en 2018. Mmh. Voilà, elle est soutenue par la Fondation Chanel, le Fonds AXA pour la Recherche, Goldman Sachs et la Fondation PepsiCo, donc qui ont justement voulu contribuer aussi à la diffusion de la recherche sur ces questions d'égalité femmes-hommes au sens large, mais aussi, évidemment, sur la question entrepreneuriale. Partant du constat que les femmes se lancent beaucoup moins dans l'entrepreneuriat, et lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles ont beaucoup plus de difficultés à obtenir des financements et à être reconnues comme étant compétentes. Donc, alors à la base d'ailleurs, le travail de la chaire portait exclusivement sur l'entrepreneuriat, et puis finalement, comme en fait ce sont des mécanismes qui
se nourrissent
et qui aussi expliquent les inégalités femmes-hommes dans le milieu professionnel au sens large. Finalement, les travaux se sont élargis. Mais dans le milieu entrepreneurial, il y a un peu une amplification de ces stéréotypes. Un peu l'idée, c'est cette caricature du self-made man qui, justement, tout seul dans son garage, a développé cette extraordinaire idée de génie et qui, donc, a monté son entreprise et a réussi à obtenir plein de financements. Donc ça, c'est vraiment un peu le stéréotype de base de l'entrepreneur. Et c'est très difficile du coup pour les femmes de s'inscrire dans cette histoire en fait qui est racontée. C'est vraiment une narration de ce que c'est qu'un entrepreneur. Je pense que ça change. Il y a aussi de plus en plus d'études qui montrent que les entreprises qui sont créées par des femmes sont des entreprises qui souvent réussissent bien. Et donc du coup elles sont sous-financées. Et ça, je pense que ça commence à être quand même bien perçu aussi des milieux des investisseurs qui cherchent à investir davantage dans des entreprises créées par des femmes. Il n'empêche que dans le milieu des startups, beaucoup des startups sont issues de la tech. Et là aussi, on voit la différence de genre dans les choix d'études, de ce que, comme les femmes font moins souvent des études scientifiques que les hommes, il y a aussi justement beaucoup moins de femmes qui permettraient de contrer le stéréotype de ce que forcément un homme dans la tech, enfin une personne dans la tech, c'est un homme. Et donc justement pour lutter contre ce stéréotype de compétence. Donc voilà, le travail de la chaire, c'est vraiment d'essayer de comprendre ces mécanismes-là et comment est-ce qu'on fait pour que, là aussi, vraiment pour aider les femmes qui, elles, se lancent, ont une bonne idée, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'elles aient accès au financement que leur projet mériterait d'obtenir.
Ouais, c'est vrai. Je crois que même dans le monde des investisseurs, je crois que le chiffre, c'est 2% de femmes. Donc là aussi, même en termes d'identification, de compréhension du projet, je pense qu'il y a des stéréotypes très intériorisés. Et pourtant, je crois que j'avais vu une recherche que vous aviez menée, ou que vous avez citée en tout cas. Par exemple, dans le cours d'initiation à l'entrepreneuriat à Sciences Po, il y a autant d'étudiantes que d'étudiants. Et pourtant, à la fin, ou si on suit après leur parcours, il y a plus d'hommes qui créent des boîtes. Et à l'incubateur de Sciences Po, il n'y a que 20 ou 30% de femmes. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce d'abandon, entre guillemets, ou en tout cas de censure? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Parce que l'intérêt est là.
Alors, l'intérêt est là, et donc c'est justement ce que vous dites est très vrai. C'était l'une des raisons pour lesquelles, justement, on a créé cette chaire aussi sur l'entrepreneuriat. Et on a créé aussi tout un tas d'enseignements avec davantage d'enseignantes femmes qui sont dans le milieu entrepreneurial, qui ont réussi et qui permettent justement de motiver certaines femmes à poursuivre leur projet entrepreneurial. Et on constate qu'à Sciences Po, il y a plutôt plus de femmes dans l'incubateur et qui portent réellement un projet entrepreneurial que dans d'autres écoles. Donc je pense qu'on a vraiment plutôt bien réussi à ce niveau-là, mais beaucoup de choses peuvent encore être faites. Ça, c'est extrêmement clair. Et notamment agir sur le milieu, donc justement sur le fait de ce que les investisseurs soient davantage sensibilisés au fait que les femmes aussi se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est absolument crucial.
C'est sûr. Et si on élargit au monde du travail de manière plus générale, moi j'ai lu un livre que j'ai trouvé quand même assez intéressant, qui est Lean-In de Sheryl Sandberg, qui a vraiment étudié, je pense, les différences et les inégalités dans le monde du travail entre les hommes et les femmes. Et ma question, c'est un peu, parce que pour avoir discuté avec des femmes qui ont eu de belles carrières, j'ai l'impression que la plupart tiennent un peu le discours de personnellement, j'ai jamais trop senti le fait que j'étais une femme, et qu'en fait, c'est un peu leur personnalité qui ont fait qu'elles en sont arrivées là. Et moi, j'ai envie de dire, bon, bah, très bien, bon, c'est peut-être parce que, voilà, il s'avère que moi, les quelques femmes que je connais dans ce cas-là, c'est leur cas, mais j'aimerais pouvoir donner des conseils à celles qui aspirent à, mais qui font face à un plafond de verre, enfin, voilà, qui veulent prendre la chaise à la table, mais qui sont pas forcément invitées. Du coup, je me demande si vous, de vos expériences et de vos recherches, vous auriez des conseils à donner à ces personnes.
Alors, c'est... je pense que l'un des conseils que moi, j'ai plutôt tendance à donner, c'est de pas trop croire les discours qui disent que, en général, les femmes prennent moins de risques, que les femmes, en fait, en général, ont moins confiance en elles, etc. Alors, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, et le syndrome de l'imposteur, c'est tout à fait quelque chose qui existe, et voilà, je pense qu'on l'a toutes, et pour beaucoup d'hommes aussi, ressenti à plusieurs, enfin, de plus ou moins fortement. Mais quelque part, je pense que ce que vous dites sur ces femmes qui disent qu'elles n'ont pas forcément ressenti, je pense que le fait, en fait, de ne pas avoir ressenti, quelque part, de ne pas s'être trop attardé sur ces différences qu'elles pourraient avoir avec les hommes autour de la table, leur ont potentiellement aussi permis de justement de s'affirmer, de progresser. Donc je pense qu'il faut éviter de se censurer en se disant que toutes ces différences là existent. Et en fait, ce qu'on constate sur les études, par exemple sur la prise de risque entre les hommes et les femmes, c'est qu'on constate que des petites différences en moyenne de ce que les hommes en moyenne serait un petit peu plus preneur de risque, et encore, ça dépend de comment est-ce qu'on mesure la prise de risque, parce que les femmes prennent beaucoup de risques aussi que les hommes ne prennent pas. On peut parler de marcher seul le soir dans la rue, par exemple, où c'est un risque qui est très différent pour un homme ou pour une femme, ou le fait de porter un enfant sur un risque physique, qu'on a tendance à pas voir comme étant un risque, sûrement parce que c'est quelque chose qui est apparenté au corps des femmes. Donc en fait, même dans cette mesure, dans cette idée du risque, il y a quand même déjà des stéréotypes qui sont mis dedans. Mais quand on a des mesures un peu sur, par exemple, le fait de prendre des risques financiers, finalement, donc, il y a des petites différences en moyenne, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre les hommes et les femmes qu'il n'y a de différence. Et finalement, ces similitudes-là permettent aussi de se dire aux femmes, mais finalement, moi, je ne suis pas si différente que ça. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas y arriver. Donc, je vais y aller. Et puis voilà.
Ouais, c'est un peu le fake it until you make it.
Absolument, ouais.
Et
ça marche bien.
Ça marche bien. Je me demandais s'il y a un livre que vous avez lu, qui vous a marqué, que vous aimeriez tout simplement recommander aux personnes qui nous écoutent, que vous trouvez assez édifiant, parlant.
Alors, il y en a beaucoup sur mes lectures récentes. Je dirais l'autobiographie de Gloria Steinem, Ma vie sur la route, qui est très intéressante aussi, parce que je trouve qu'elle permet de donner des idées de ce que il n'y a pas qu'une seule façon de faire pour mener sa barque dans la vie. J'ai trouvé ça juste très intéressant.
Ouais, mais d'ailleurs, Gloria Steinem, c'est quand même une des premières figures féministes, je trouve, à avoir un peu cassé cette image de la femme comme étant un chemin assez tout tracé. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi un énorme sujet qui est aussi complexe, hein, mais où je pense vraiment que les femmes se projettent dans la vie comme on attend d'elles qu'elles soient. Et je ne suis pas un homme, mais j'ai l'impression que les hommes, il y a vachement moins de cases à cocher de « il faut que je me marie, il faut que j'ai un enfant ». Et alors, bien sûr, il y a un désir qui, je pense, aussi peut-être voilà, biologique, mais qui est hyper social aussi. Et je pense que c'est de manière inhérente lié aussi après aux différences de carrière, vu que c'est une différence d'ambition. Et par exemple, il y a un podcast qui s'appelle « Femme puissante » de Léa Salamé. Et sa première question, c'est « Si je vous dis que vous êtes une femme puissante, qu'est-ce que vous me dites ?» Donc c'est de la part de femmes qui voilà, ont des parcours assez incroyables. Et très peu acceptent ce qualificatif, alors que les hommes s'en glorifient presque. Et ça, c'est vachement un truc aussi, j'essaye de réfléchir, parce que mon but étant d'aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie, c'est vrai que je me dis, mais comment faire ? Parce que, bah oui, il y a des lectures qui peuvent aider, voilà, moi c'est ce qui m'a ouvert l'esprit, mais peut-être pour celles qui n'ont pas accès, comment leur faire réaliser qu'en fait elles sont au pouvoir de leur vie et que c'est pas la société qui doit leur dire comment elles doivent vivre leur vie.
Oui, alors moi j'aurais une réponse un peu plus nuancée, parce qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'elles ne disent pas qu'en effet elles ont du pouvoir, mais on peut aussi se poser la question pourquoi est-ce que les hommes se glorifient autant de l'avoir. Et quelque part, je pense qu'il y a... Un aspect sur lequel, à mon avis, on a encore beaucoup de chemin à faire, c'est que la référence reste quand même justement d'avoir un pouvoir qui quand même continue de correspondre au stéréotype masculin du pouvoir. Ce qui est aussi probablement dû au fait que justement on n'a toujours pas... ce stéréotype est toujours extrêmement fort et qu'on n'a toujours pas de mixité suffisante pour que l'on puisse concevoir un pouvoir différemment et qui ne soit pas normé justement par ces...
Par les hommes,
par la masculinité en tant que... de concept sociétal. Ouais. Mais et quelque part, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse à cette question-là non plus. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est d'étudier justement ces différences.
Ouais, c'est sûr. Bah, je ne sais pas si c'est un domaine que vous avez un peu étudié aussi, mais est-ce que vous avez observé vraiment cette différence de projection de vie entre les femmes et les hommes je sais pas, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, est-ce qu'on la voit scientifiquement
Alors, donc ça, c'est l'un de mes projets de recherche en cours. Donc d'accord. Ça, je pourrais vous en parler plus, dire plus dans quelques mois. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense, parce que le moment où on fait un autre choix, on est plus ou moins avec des attentes sociétales différentes. Alors, par exemple, sur le cas des entrepreneurs, donc on a mené avec Alessandra Cossito, qui est aussi enseigne dans le Centre pour l'entrepreneuriat à Sciences Po, une étude qualitative auprès des étudiantes qui avaient un projet entrepreneurial qui était plus ou moins abouti dans le cadre de leurs études à Sciences Po. Et c'était intéressant parce que c'était assez nombreuses justement à dire oui, mais par exemple, moi j'aimerais bien, mes parents ils me disent que c'est trop risqué pour moi à ce stade-là parce que je vais bientôt avoir envie d'avoir des enfants, donc si jamais mon projet ne réussissait pas, du coup j'aurais pris du retard sur ma carrière professionnelle et puis le temps m'est compté. Voilà, et ça, ce sont des questions qui se posent pas du tout pour les hommes, ne serait-ce que à cause de la question de la maternité telle qu'elle est perçue aujourd'hui par la société et comment elle s'articule avec la carrière professionnelle. Donc là vraiment on voit justement que du coup les éléments qui rentrent en compte dans les décisions de début carrière professionnelle entre les hommes et les femmes sont aussi déjà fortement influencés par cette pression-là, et il y a beaucoup à faire pour y réfléchir davantage.
Alors, vous travaillez en partie aux Pays-Bas, vous nous en avez parlé. Alors, je connais pas exactement la situation là-bas, mais c'est vrai qu'on prend toujours un peu l'exemple des pays scandinaves, donc plus Norvège, Suède, en termes d'exemple en tout cas sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pourtant, les femmes font tout autant des enfants que chez nous, et c'est vrai que il y a quand même, il y a un status quo en termes d'inégalité qui est extrêmement différent. Comment vous l'expliquez du coup, et est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver à... le but c'est pas de copier un modèle, mais en tout cas est-ce qu'on arrivera à réduire les inégalités comme l'ont pu faire ces pays-là?
Alors du coup je mettrai les Pays-Bas un petit peu à part. Ouais. Les Pays-Bas il y a une particularité aux Pays-Bas qui est que la grande majorité des femmes travaillent à temps partiel. Les hommes sont beaucoup moins souvent à temps partiel, mais ils travaillent aussi plus à temps partiel que dans les autres pays d'Europe. Donc c'est un système qui en lui-même est très particulier. Si on prend des pays comme la Norvège, la Suède, on constate en effet que là, par exemple, les politiques publiques qui ont permis d'augmenter le part du temps que les hommes consacrent à la parentalité, ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et c'est là, clairement, nous, on a des choses à apprendre de ces pays à ce niveau-là. Mais la France est très progressiste, n'empêche. Et c'est vrai que par exemple la loi Copé-Zimmermann est l'une des plus avancées sur les quotas dans les conseils d'administration. Il y a une discussion autour de dans les comités exécutifs, est-ce qu'on pourrait aussi mettre en place justement des quotas de manière à encourager encore davantage les carrières des femmes. Donc ouais, c'est vrai qu'en France on a tendance à vraiment voir ces pays-là comme des modèles, mais la France fait pas mal et c'est un processus évolutif.
Ouais.
Voilà,
ouais. Et pour se faire une petite idée, parce que je trouve ça bien quand même de donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte, si vous aviez des chiffres peut-être à communiquer sur l'inégalité qui existe aujourd'hui dans le monde du travail entre les hommes et les femmes, que ce soit en termes de domaine ou que ce soit en termes de salaire, pour qu'on puisse avoir une idée. Et après, même s'il y a une évolution, si elle est favorable, c'est bien aussi de le savoir, mais je pense que pour beaucoup c'est assez flou. Et moi, pour avoir pris la parole sur le sujet, notamment sur les différences de salaire, c'est assez irritant quand les hommes vont t'expliquer que non, c'est pas 9% de différence, parce qu'en fait il faut voir si c'est vraiment le même poste. Et en fait, enfin voilà, moi j'avais fait la recherche, c'est en effet à poste, enfin voilà, à compétences égales. Mais il y a une espèce de doute, ou parfois le pire, c'est quand on va te dire « Ouais, mais est-ce qu'elles font aussi bien leur travail ?» Parce qu'il y en a quand même qui disent ça. Alors, je pense pas que ce soit la majorité, mais en tout cas, j'aimerais bien que, de la part d'une chercheuse, dont on peut a priori pas remettre les faits et les chiffres en question, on ait un peu une idée de ce que c'est aujourd'hui.
Alors, il y a des... Donc, en fait, si on prend les inégalités salariales brutes, c'est-à-dire on ajuste pour aucun facteur et on regarde juste la différence entre les salaires que touchent les femmes et les salaires que touchent les hommes en France, les écarts sont autour de 25%. Et après, on peut réduire cet écart. Alors, évidemment, tout dépend si on regarde les moyennes, la médiane, et puis après, selon quelles variables on contrôle. Alors, généralement, on contrôle de l'âge, de l'expérience professionnelle, du type d'études, donc ça, c'est un peu enfin, en tout cas, le niveau d'études, donc ça, sont les variables de base. Et puis après, on peut contrôler pour si les femmes ont eu des enfants, les hommes ont eu des enfants, et puis on voit que le poids n'est pas le même dans les salaires, le fait d'avoir eu un enfant pour une femme ou pour un homme. Le temps de travail, évidemment, donc ça c'est une des variables importantes. Donc au fur et à mesure, on rajoute toutes ces variables, on réduit l'écart. Mais l'écart reste persistant et significatif. Donc si on prend un peu les variables de base, on reste à un écart en France qui est autour de 15%, ce qui reste quand même très important. Mais par ailleurs, plus on rajoute de variables, et plus ces variables-là, en fait, éliminent certains des facteurs qui causent la discrimination et les inégalités. Alors, par exemple, si on prend le niveau d'études. Alors le niveau d'études, maintenant il est plus aussi pertinent qu'avant, parce que la plupart des gens font des études, pas la plupart, mais en tout cas quelque chose qui est très clair dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est que les femmes font plus d'études supérieures que les hommes. En revanche, dans le type d'études qu'elles ont effectuées, ces types d'études ne leur permettent pas d'obtenir des postes qui sont aussi bien rémunérés, qui permettent d'avoir justement un poste de cadre et des belles trajectoires de carrière. Et ça, c'est quelque chose que l'on contrôle mal, ou quand on le contrôle, quelque part, on enlève des raisons pour lesquelles les femmes ne se sont pas senties de faire des études scientifiques, par exemple. Donc voilà, après les chiffres, donc on peut un peu les interpréter comme on veut. Et il y a de la valeur de regarder le chiffre brut ou le chiffre ajusté. Et ils sont tous les deux valables. Mais quand même, quelle que soit la façon dont on regarde les chiffres, les inégalités, elles existent. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a eu un vrai progrès pendant les années 60, 70, 80, 90. Et depuis une vingtaine d'années, on stagne quand même pas mal. Donc il y a encore beaucoup de choses et de chemins à parcourir.
Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, on peut penser que les femmes demandent moins en termes de salaire. J'avais vu une étude qui prouvait que non, pas forcément. Elles osent tout autant négocier leur salaire que les hommes. Donc il y a peut-être une barrière mentale après à donner des plus hauts salaires, je sais pas,
à oui, femmes. Alors là, il y a pas mal d'études qui vont dans beaucoup de directions différentes. Je pense quand même que c'est plutôt montré quand les femmes ont eu plutôt tendance à moins demander. Et il y a aussi des études plutôt en sciences de gestion qui ont tendance à suggérer que, par ailleurs, comme les départements de ressources humaines ont tendance à anticiper ce que les femmes demandent moins, dans ce qu'elles demandent, ces départements donnent moins. Mais ça, je pense que ça change. Ça change aussi parce que les entreprises sentent une pression de la part des pouvoirs publics pour être plus transparentes sur leur rémunération. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'il y a des politiques de transparence sur les rémunérations, là, les femmes, elles voient ce à quoi elles peuvent prétendre, elles demandent et elles obtiennent.
Ouais. C'est une politique intéressante.
Oui, c'est une politique intéressante qui a aussi des contreparties négatives. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'en tant qu'économiste, on s'intéresse toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quand on met en place une incitation, ça crée aussi des comportements qui peuvent être moins positifs. Et là, en l'occurrence, les politiques de transparence sur les salaires peuvent induire des insatisfactions de vie parce qu'on justement se dit, mais en fait, j'ai pas ce à quoi je prétends, et un tel ou une telle, pourquoi est-ce que il ou elle gagne autant ? Et ces comparaisons-là entre individus sur des éléments de richesse peuvent être en fait négatives sur les rapports sociaux. C'est...
Ouais. Ouais, y a des choix à faire, quoi.
Il y a des choix à faire. Il y a des discussions à avoir.
J'ai quelques petites dernières questions pour vous. D'abord, s'il y a une personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, qui ce serait ?
Ben, j'aimerais bien écouter Gloria Steinem sur ce podcast.
Ah ouais, tu veux bien revenir ? Ouais, je pense que ce sera pas possible.
Si, je sais pas si peut-être que vous l'avez déjà interviewé, Manon Garcia.
Non. Alors, celle qui a fondé Pépites Sexistes ?
Non. Je crois pas. Elle a écrit un livre qui est sur « On ne naît pas soumise, mais on le devient ».
D'accord. Oui, en effet, j'ai entendu parler du livre. Non, je ne l'ai pas reçu sur le podcast.
Du coup, je l'avais entendu sur... elle était intervenue sur... je crois « Les couilles sur la table ». Et c'était hyper intéressant. Son livre est extrêmement intéressant.
D'accord. Ah bah, je le lirai et j'essaierai de la faire venir sur le podcast. Super. Si vous pouviez donner 3 conseils aux femmes qui nous écoutent, 3 choses peut-être que vous aimeriez qu'elles retiennent de cet épisode, ce serait quoi ?
Alors, 3 choses peut-être à retenir sur les épisodes. D'une part, de bien en fait faire un peu de prendre du recul par rapport aux stéréotypes et des croyances que l'on a formées et que, enfin, un peu les pensées qui fondent les choix que l'on fait. Donc, essayer vraiment de distinguer ce qu'on a vraiment envie de faire et ce que, en fait, à quel point justement ces envies ont pu être influencées par des éléments sociétaux. Et par les stéréotypes en particulier. Le deuxième, ce serait de ne pas s'auto-censurer. Donc ça c'est je pense, un élément qui est assez important et de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a un conseil que j'ai entendu récemment que je trouvais qui était très intéressant, qui était aussi de pas avoir peur de poser une question bête, par exemple. Donc je pense qu'on a tendance à beaucoup mettre l'accent sur le poids de l'éducation formelle, mais une fois qu'on rentre sur le marché du travail, on continue évidemment à développer ses compétences, mais de façon souvent beaucoup plus informelle. Et ça passe notamment par des questions que l'on peut poser pour comprendre comment quelque chose fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un bon conseil. Donc, poser des questions. Et le troisième, c'est de s'entourer de rôles modèles, donc vraiment aller les chercher. Donc se donner des inspirations pour se motiver et donc se permettre d'aller plus loin.
Super, merci beaucoup. Il reste du coup juste la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous, prendre le pouvoir de sa vie ?
Alors, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, ce serait vraiment de se rendre compte comment ses propres choix sont faits.
Et à quel point c'est ce qu'on pense, VS, la société.
Exactement.
Super. Merci beaucoup, Anne, d'être venue sur InPower.
Merci beaucoup, Louise.
Hyper intéressant et surtout très singulier comme podcast, que j'ai l'habitude de recevoir des artistes, des entrepreneurs, mais vous êtes la première chercheuse que je reçois. Donc j'en suis ravie. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vos travaux, sur ce que vous faites, où est-ce qu'on peut les rediriger ?
Alors du coup, il y a le site de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes. Ouais. Donc ça, c'est le point d'accès principal.
Ok, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Super. Et j'espère à très vite.
Merci beaucoup.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Anne. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @sciencespo et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qu'il pourrait aider, inspirer ou éduquer, et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.